Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Gittin, page 11, Daf Yud Alef. Bonne écoute et bon limoud.
Beshemot Muvakim, ou le nom des témoins goyim qui ont signé sur ce guet, ont des noms typiquement goy. Il n'y a donc pas à craindre qu'on les prenne pour des juifs et qu'on s'appuie sur leur signature. La Gemara demande « Hechidami Shemot Muvakim » quels sont des exemples de noms typiquement goy. Amar Rafapa, Rafapa dit « Kgon Hurmiz, Ve'avudina, Bar Shivtai, ou Bar Kidre, ou Bati, Ve'nakim, Una » ce sont des noms qui étaient typiquement goy à l'époque. « Aval Shemot Shem Muvakim » mais si les noms des témoins qui ont signé sur ce guet ne sont pas typiquement goy, on risque donc de les prendre pour des juifs. Mai, lo. Alors finalement, donc, nous dirons que ce document n'est pas valable. Yahi, si c'est comme ça, ad et anesefa. Quand la Mishnah nous enseigne par la suite, lo huzkeru et la bisman shenasu beidiot, n'ont été cités comme documents non valables que ceux qui ont été écrits devant des hommes simples, donc qui ne sont pas un tribunal. Liflog velit nebedida. Rabbi Shimon avait qu'à faire la différence, justement, concernant les actes de divorce, en disant comme suit, Bam edvarim beshemot muvakim. Dans quel cas a-t-on accepté la signature des témoins goy sur un acte de divorce? Ce n'est que quand il s'agit de noms typiquement goy. Aval shemot shen muvakim lo. Mais quand il s'agit de noms qui ne sont pas typiquement goy, on ne pourra pas accepter la signature d'un goy sur l'acte de divorce. Pourquoi a-t-il cherché donc un cas plus lointain, le cas où le document n'a pas été fait devant un tribunal? L'agma répond, Hachinami Kama, c'est ainsi justement qu'il a voulu dire, Bam et Dvarim Amurim Beshemot Muvakim, quand est-ce qu'on accepte la signature de témoin goy sur un acte de divorce? C'est quand il s'agit de noms typiquement goy, Aval Beshemot Shen Muvakim, mais si les noms des témoins goy qui ont signé sur ce get n'ont pas des noms typiquement goy, Naase Kemishenasu Beidiot, ils sont comparés à un simple document de vente qui a été fait devant des hommes simples, donc pas devant un tribunal, Upsulim, et dans les deux cas, ces documents ne sont pas valables. Et cela, parce que dans le cas de l'acte de divorce, dont les témoins qui ont signé n'ont pas de nom typiquement goy, ce guet sera pas soul, parce qu'on risque de s'appuyer sur la signature de ces témoins pour permettre à la femme de se marier sans avoir recours aux témoins devant lesquels ce guet a été transmis. Et le document de vente qui n'a pas été fait devant un tribunal, aussi ne sera pas valable, parce que ces personnes simples n'ont pas peur de se trouver par la suite comme étant menteurs. Ils peuvent signer ou délivrer ce document, même si la vente n'a pas eu lieu. Vibaitema, et si tu trouves à redire sur cette réponse, je t'en dirai une autre. Sefa'atan legitemamon. Cette fin de la Mishnah n'a pas été dite par Rabbi Shimon, mais par les premiers auteurs de la Mishnah. Et cela se rapporte donc au document concernant les questions monétaires. Verikama, c'est ainsi que la Mishnah voulait dire, c'est ainsi que le Chachamim vont lui dire. Lozkeru gitemamon de psulim. On ne parle de documents concernant des questions monétaires qui ne sont pas valables. Et là, bisman shenasu beidiot, ce n'est que le cas de documents qui ont été délivrés devant des personnes simples qui ne sont pas un tribunal, pour la raison que nous avons expliquée plus haut. Nous avons fini ici le shiur de Gittin Lafiud. Nous commençons le shiur de Gittin Daf Yud Alef. Nous commençons à la 12e ligne du haut de la page. Vous avez vu jusqu'à présent dans la Mishnah qu'un document délivré et qui a été écrit devant un tribunal de Goyim, même si les signatures des témoins sur ce document sont aussi des signatures de Goyim, ces documents seront kachers, comme l'Agmara l'a expliqué. Et cela parce que les tribunaux ne sont pas soupçonnés de délivrer de faux documents. Par contre, s'il s'agit de simples goyim, mais ce document n'a pas été délivré devant un tribunal, nous soupçonnerons que ce document est un faux et il ne sera pas valable. La Mishnah nous a dit que cela ne s'applique que sur les documents concernant les questions monétaires. Mais s'il s'agit d'un acte de divorce ou d'un titre d'affranchissement, ce document ne sera pas valable. Là-dessus, il y a deux explications. L'explication simple et que l'auteur de la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Meir que c'est la signature des témoins sur le document qui rend celui-ci valable, puisque ce sont des goyim qui ont signé ce document et ils ne sont pas concernés par les lois des divorces et des affranchissements, ce guet ou ce titre d'affranchissement sera pasoul. La Gemara plus haut d'Afiud Amoud Aleph avait proposé une autre explication qui est un peu plus difficile à faire rentrer dans les mots. Et c'est la suivante. Même si nous disons que le premier auteur de la Mishnah pense comme Rabbi Lazar, selon lequel ce sont les témoins devant lesquels le document qui a été transmis qui lui donne sa valeur, et il s'agit d'un cas où ce guet a été transmis devant des témoins juifs, quand même, ce guet sera pasoul. Et cela, même si les noms des témoins sont des noms typiquement goy, donc finalement, il n'y aura pas lieu de soupçonner que ce soit des juifs qui ont signé sur ce document et qu'on fasse confiance à la signature des témoins. Quand même, le premier auteur de la Mishnah a décrété d'interdire toute signature de goy sur un guet, de peur qu'il soit confondu avec une signature dont les noms des goyim ne sont pas des noms typiquement goy. Et dans lequel cas, on risquerait de se tromper et de s'appuyer sur la signature des témoins, même s'ils sont goy. L'avis de Rabbi Shimon est que si les noms des témoins signés sur ce guet sont des noms typiquement goy, et personne donc ne soupçonnera que ce sont des juifs qui ont signé sur ce guet et qu'on fasse confiance à la signature de ces témoins, ce guet sera kasher en s'appuyant sur les témoins devant lesquels ce guet a été transmis. Nous préciserons que puisque la raison pour laquelle ce guet est valable, c'est parce que nous appuyons sur les témoins devant lesquels ce guet a été transmis, et pour se remarier, la femme devra impérativement amener ses témoins. Il n'y aura pas de différence si ce guet a été écrit devant un tribunal goy ou s'il a été écrit devant de simples personnes. Tania, alors l'Agmar dit, il a été enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Lazar Rabbi Yossi, kach amar Rabbi Shimon Chachamim, c'est ainsi que Rabbi Shimon a dit au Chachamim, donc le premier auteur de la Mishnah, pour prouver son opinion. Betidon, et cela dans la ville de Tidon. L'onech le cours Rabbi Akiva et Chachamim, il n'y a pas eu de discussion entre Rabbi Akiva et les Chachamim de l'époque, donc c'est la génération antérieure. Al kol hashtarot haolim barkaot shel ofdei kochavim, à propos de tous les documents qui ont été délivrés devant un tribunal goy, bien que les signatures des témoins sont des signatures de goyim, quand même, ce document sera valable. Et cela, même s'il s'agit d'actes de divorce ou de titres d'affranchissement. Leur discussion n'a été que dans le cas, et la bisman shena subediot, concernant des documents, concernant des questions monétaires qui ont été délivrées devant des simples goyim. Chez Rabbi Akiva Marchir, selon Rabbi Akiva, ce document est valable, et cela même s'il s'agit d'un document concernant des questions monétaires, parce que il s'agit d'un cas où ce document a été transmis devant des juifs. Finalement, donc, nous appuyons sur les témoins devant lesquels ce document a été transmis. Va chachamim poslim, et les chachamim, selon les chachamim, ce document n'est pas valable. Chutz mi gite nashim v'shichure avadim, à part les actes de divorce et les titres d'affranchissement. Dans ce cas, même s'il a été signé par des simples goyim, cet acte de divorce sera kasher. Et cela, bien entendu, parce qu'il s'agit d'un cas où ce guet a été transmis devant des témoins juifs, et c'est cela donc qui rend le guet kasher. Et bien entendu, nous parlons d'un cas où les noms des goyim signés sur ce guet sont des noms typiquement goy. Il n'y aura pas à craindre qu'on s'appuie sur ces témoins pour permettre cette femme. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, af eluk sherim. Même quand nous disons que cet acte de divorce ou ce titre d'affranchissement est valable s'il a été transmis devant des témoins juifs, mais il a été signé par des goyim, nous ne l'avons permis, bemakom she'en Israël chotmim, que dans un endroit où le gouvernement, la loi interdit aux juifs de signer un document. Aval bemakom chez Israël Chotmim, mais dans un endroit où la loi permet aux juifs de signer un document, l'eau, les chachamim ne l'ont pas permis, on exigera une signature ou les signatures de juifs. Et cela, parce que dans un endroit où la loi interdit aux juifs de signer un document, forcément, ils ont pris l'habitude de ne faire confiance qu'aux témoins devant lesquels le document a été transmis. Alors que dans un endroit où les juifs ont droit de signer un document, donc ils n'ont pas spécialement l'habitude de s'appuyer et de rechercher les témoins devant lesquels le document a été transmis, ou le guet a été transmis, cela risque donc de prêter à confusion. Et même dans le cas où des goyim ont signé sur ce document, on risque de s'appuyer sur eux et de ne pas rechercher les témoins devant lesquels ce guet a été transmis. C'est pourquoi donc les chachamim ont interdit de s'appuyer sur la signature des goyim si les juifs peuvent signer. Alors la Gemara demande, mais comme chez Israël Chotmim, même dans un endroit où la loi interdit au Bnei Israël de signer, l'Ixor Atuma comme chez Israël Chotmim, on n'a qu'à aussi décréter d'annuler ce document de peur qu'on le confonde avec l'endroit où les Bnei Israël ont droit de signer. La Gemara répond, Shema Beshema Machlif, dans un endroit où les juifs ont droit de signer, et donc il faut faire attention au nom des témoins signés sur ce document, sur ce guet, on peut confondre les noms. Et on pourra prendre un goy pour un juif, on s'appuierait donc dessus, et on ne rechercherait pas les témoins devant lesquels le guet a été transmis. Atra be'atra lo machlif, par contre, on ne confondra pas un endroit avec l'autre, et dans un endroit où on recherche toujours les témoins devant lesquels le document a été transmis, on ne risque pas de se tromper. Ravina savar l'archure beknufiata de armae. Ravina pensait accepter un document qui aurait été délivré par une assemblée de goyim, mais qui ne sont pas un tribunal. Amar le Rafram, Rafram lui a dit, arkaotnan. Dans la Mishnah, on ne parle d'accepter des documents que s'ils ont été délivrés devant un tribunal. Amar Rava, haishtara parsa, ce document écrit en perse, et dont, qui a été signé par des témoins goy qui ne sont pas des juges. Mais qui a été transmis aux créanciers devant des témoins juifs, on pourra encaisser avec cette reconnaissance de dette des terrains libres, c'est-à-dire des terrains qui appartiennent aux créditeurs qui n'ont pas encore été vendus. Et cela parce que nous nous appuyons sur les témoins devant lesquels ce document, cette reconnaissance de dette a été transmise. La Gemara demande, Veha lo yade le mikra. Comment est-ce que nous pouvons nous appuyer sur les témoins devant lesquels ce document a été délivré? Voici qu'ils ne savent même pas lire. Peut-être qu'il ne s'agit pas du document qui a été transmis devant eux. Comment peuvent-ils donc témoigner que ce document a été transmis devant eux? La Gemara répond, BDAD. Il s'agit de témoins juifs, mais qui savent lire le perse. La Gemara demande, Veha ba'ina ktav she'eno yachol le zayef. Voici qu'une des conditions qu'un document soit valable, c'est qu'il soit écrit sur un parchemin qui ne peut pas être falsifié. Veleka, et dans un document perse, il n'y a pas cette condition, parce que les parchemins fabriqués en Perse ne sont pas traités de manière à ce qu'ils ne puissent pas être falsifiés. Il y a donc lieu de craindre que même si les témoins se rappellent que c'est effectivement ce document qui a été transmis devant eux, mais une partie de ce document a été falsifiée, par exemple la somme ou une autre clause de ce document, et les témoins ne s'en rappellent pas. La Gemara répond, Bedea Fitzan. Il s'agit d'un cas où ce parchemin a été traité avec la noix de gal qui le rend infalsifiable. La Gemara demande, Vehaba ina tsarich shi'arzor minyano shel shtar beshita acharona. Voici que l'une des conditions pour qu'un document soit valable est que dans la dernière ligne de ce document soit répété en résumé le sujet de ce document, Veleka, et cette condition n'a pas été remplie. Parce qu'en général, les documents perses ne sont pas écrits de cette manière. La Gemara répond, Bedemehadar, il s'agit d'un cas où, dans la dernière ligne de ce document, a été répété en résumé le sujet de ce document. La Gemara demande, Yach, ici c'est comme ça, même Shabbat et Nami, on devrait pouvoir encaisser cette dette, même des terrains qui ont été vendus. L'Agma répond, effectivement, on pourrait le faire. Mais ici, l'éclat kala, ce document ne fait pas de bruit. C'est-à-dire, puisque ce sont des simples témoins qui ont signé dessus, ils ne font pas courir le bruit comme quoi cette personne, ce créditeur, est effectivement devenu créditeur. Et on ne pourra donc pas encaisser les terrains qu'il a achetés. En effet, en général, la raison pour laquelle nous disons qu'une dette peut être encaissée, même des terrains qui ont été vendus, c'est parce qu'en général, nous estimons que l'acheteur a eu connaissance de cette dette et s'il a acheté ce terrain, c'est tant pis pour lui. Mais dans l'autre cas où il n'a pas eu connaissance de cette dette, on ne pourra donc pas prendre ce terrain. La Gemara demande, « Ba'a miné Resh Lakish mi Rabbi Yochanan ?» Resh Lakish a posé la question suivante à Rabbi Yochanan.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Yudalef Amud Bet. Edim hachatumim al get. Des témoins qui ont signé sur un get, sur un acte de divorce. Il s'agit d'un acte de divorce qui a été délivré en Eretz Israël. Ushmotam keshemot of de kochavim. Et les noms de ces témoins ressemblent à des noms de goyim. Et finalement, il y a lieu de se demander si ce sont effectivement des goyim qui ont signé dessus, ou bien est-ce que nous dirons qu'en général, ce n'est que des juifs qui signent sur les actes de divorce. On estimera donc qu'il s'agit de juifs dont les noms sont des noms de goyim. Alors, Mahou, quelle est la halakha? Est-ce que nous pourrons nous appuyer sur les témoins devant lesquels cet acte de divorce a été transmis, ou non? Le Rashba précise que cette question se pose dans le cas où les noms des témoins signés sur ce guet ne sont pas des noms typiquement goy. Il est vrai que nous avons vu dans la Mishnah que même Rabbi Shimon qui acceptait le guet dont les témoins qui ont signé dessus étaient goy, ce n'est que à condition que le nom de ces témoins sont typiquement goy. À plus forte raison, les Chachamim qui rendaient ce guet pasoul même dans le cas où le nom de ces témoins était typiquement goy. Ici, dans notre cas, puisque nous avons un doute si ces témoins sont des goyim ou non, il est possible que nous appuierons premièrement sur les témoins devant lesquels ce guet a été transmis, et même si des gens se tromperaient et s'appuieraient sur la signature de ces témoins, mais puisqu'il y a une possibilité, et d'ailleurs comme nous l'avons dit, nous pouvons même estimer qu'il s'agit de juifs qui ont signé sur ce guet, on devrait le rendre kasher. Amarle, Rabbi Yochanan lui a répondu, Loba liadenu ela lucus velus, ne s'est présenté un cas devant nous que le cas où les noms des témoins signés sur le guet étaient lucus velus. Ce sont des noms typiques qui ne sont pas couramment utilisés par des juifs. En d'autres termes, donc, il est rare de trouver des juifs ayant ce genre de nom. Et ce n'est que dans ce cas que nous avons accepté ce guet. Et cela, même selon les Chachamim qui rendent le guet pasoul, même s'il a été signé par des goyim dont les noms sont typiquement goy. Mais dans notre cas, comme nous l'avons expliqué, puisqu'il y a une possibilité que ces témoins sont juifs, nous l'avons accepté, mais seulement dans le cas où il s'agit de noms typiquement goy. Et cela, comme l'explique le Rashba, parce que premièrement, puisqu'il s'agit de noms typiquement goy, il n'y a pas tellement lieu de craindre qu'on s'appuie sur la signature de ces témoins et on recherchera les témoins devant lesquels ce guet a été transmis pour permettre cette femme. Et même pour la possibilité lointaine où des gens s'appuieraient sur la signature de ces témoins pour permettre cette femme, puisqu'il y a la possibilité que ce sont des juifs qui ont signé, il n'y a pas lieu donc d'interdire ce guet. Aval, Shemata Achariné, mais des autres noms des Shriché Israël, des Mashkeb et Shmatayou, qui sont couramment employés par les Juifs, là, nous ne l'avons pas permis, nous n'accepterons pas un guet signé de cette manière. Et cela parce qu'il sera beaucoup plus courant que des gens s'appuieront sur cette signature, et comme nous avons un doute s'il s'agit de Juifs ou de Goyim, on ne pourra pas s'appuyer sur notre estimation qu'en général, ce sont des Juifs qui signent sur les Gittim, et par conséquent, on ne pourra même pas s'appuyer sur les témoins devant lesquels ce guet a été transmis, puisqu'ailleurs, cette femme pourra être permise en s'appuyant sur la signature des témoins sur ce guet. Et Tivé, Resh Lakish a opposé une braïta à l'opinion de Rabbi Yochanan, Gitin Habayim Mimdinat Hayam, des actes de divorce qui viennent de l'étranger, Ve'edin Chatunimim Alehem, et des témoins sont signés dessus, Afalpi Sheshmotehem Keshmot Ovde Kochavim, même si les noms de ces témoins ressemblent aux noms des Goyim, Ksherim, ces actes de divorce seront valables. Mipne Sherov Israel Shebechutz Laaretz, parce que la majorité des Juifs habitant à l'étranger, Shmotehem Keshmot Ovde Kochavim, leur nom ressemble aux noms des Goyim, en d'autres termes, la majorité des Juifs habitant à l'étranger ont des noms de Goyim. Finalement donc, nous voyons dans cette braïta qu'un acte de divorce est valable, même si les noms de ses témoins sont des noms de Goyim. Et comme la Breta ne le précise pas, ce guet sera valable, même si on n'a pas les témoins devant lesquels cet acte de divorce a été transmis. Et cela même dans le cas où il ne s'agit pas de noms typiquement Goy. Comment se fait-il que Rabbi Yochanan n'accepte le guet que quand il s'agit de noms typiquement Goy? Nous voyons que, dans le cas de doute, nous nous appuierons sur notre estimation que ce sont des Juifs qui signent sur un acte de divorce. La Gemara répond, Hatam kedekatan et hama. Là-bas, dans cette braïta, c'est comme ce que la braïta a elle-même donné la raison. Mipnei sherob Israël shebechutz laaretz shmotehem keshmot ovdei kochavim, parce que la majorité des Juifs habitant à l'étranger ont des noms de Goyim. Dans ce cas, effectivement, il n'y aura pas lieu de craindre que c'est un goy qui a signé sur cet acte de divorce, et il sera valable même sans les témoins devant lesquels ce guet a été transmis. Par contre, en Eretz Israël, où la majorité des Juifs n'ont pas de nom de goyim, on ne pourra pas accepter des témoins dont les noms sont de noms de goyim en nous appuyant simplement sur notre estimation que ce sont des Juifs qui signent sur un acte de divorce. Et il faudra donc, premièrement, que le nom de ces témoins soit typiquement goy, et deuxièmement, il faudra rechercher les témoins devant lesquels ce guet a été transmis. Et cela comme nous l'avons expliqué. Veika de Amré, il y a une deuxième version de cette question que Rabbi Yochanan, que Resh Lakish a posée à Rabbi Yochanan, qui matnita ba'amine. Resh Lakish a posé la même question que le cas exposé par la Braïta. En d'autres termes, il a posé la question suivante, est-ce qu'un guet venant de l'étranger dont les témoins sont des témoins de Goyim, est-ce que ce guet sera accepté même sans les témoins devant lesquels ce guet a été transmis? Ou pachatle mimatnita, et Rabbi Yochanan lui a apporté une preuve de la braïta pour trancher cette question. Il lui a dit, puisque la majorité des Juifs habitants à l'étranger ont des noms de Goyim, ce guet sera kasher même sans les témoins devant lesquels ce guet a été transmis. Nouvelle Mishnah. Haomer ten getze leishti. Celui qui dit à un émissaire, donne cet acte de divorce à ma femme, ou shtar shirhurze leavdi, et ce titre d'affranchissement à mon esclave. Imratza l'arzor bishnehem yarzor. Si par la suite, avant que ces documents aient été transmis à leur destinataire, le propriétaire veut se rétracter, il peut le faire et annuler ainsi cet émissaire. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Et cela parce qu'une personne n'a pas le pouvoir de faire un acte d'acquisition pour le compte d'une autre personne si elle n'est pas son émissaire, si cette acquisition peut être à son détriment. Rabbi Meir considère que non seulement le divorce, mais même l'affranchissement d'un esclave peut être au détriment de ceci. Chachamim omrim, et les Chachamim disent, Begite Nashim, le propriétaire, le mari donc, peut se rétracter quand il s'agit d'un acte de divorce et annuler ainsi l'émissaire auquel il a donné cet acte de divorce pour divorcer sa femme, mais il ne pourra pas se rétracter s'il s'agit d'un titre d'affranchissement. Les filles chez Zachin, les Adam, chez l'Obefanav, parce qu'une personne a le pouvoir de faire un acte d'acquisition pour une personne, même si elle n'est pas son émissaire, si cette acquisition sera pour le bénéfice de celle-ci. De en chavin lo, et l'Obefanav. Par contre, une personne n'a pas le pouvoir de faire un acte d'acquisition pour le compte d'une personne, même si elle n'est pas son émissaire, si cette acquisition peut être à son détriment. Alors, la Mishnah précise, chez Imirtse, chez Lolazun et Avdo, Rachai, si un maître veut ne pas nourrir son esclave, il a le droit. Par conséquent, donc, le fait de la franchir ne fait rien perdre à cet esclave. Il ne s'agit donc pas d'un acte d'acquisition au détriment de l'esclave, mais entièrement pour son bénéfice. Par contre, Veshelo lazun et ishto eno rachai, mais un mari n'a pas la possibilité ni le droit de ne pas nourrir sa femme. Finalement, en la divorçant, elle perd son droit de nourriture. Cet acte d'acquisition, l'acte d'acquisition de l'acte de divorce, est au détriment de la femme. Finalement donc, cet émissaire n'a pas acquis cet acte d'acquisition pour le compte de la femme, et par conséquent, le mari peut se rétracter. Amar Lahem, Rabbi Meir a répondu au Chachamim, comment est-ce que vous dites que l'affranchissement de l'esclave n'est qu'un bénéfice, mais ce n'est pas une action au détriment de l'esclave? Veharehu poselet avdo min atuma. Voici qu'en l'affranchissant, il lui interdira la consommation de la truma, kishem shu poselet ishto, de la même manière qu'il interdit à sa femme la consommation de la truma, s'il est Kohen. Finalement donc, cette action, cette acquisition du titre de d'affranchissement peut être au détriment de l'esclave, et une personne n'a pas le pouvoir de faire une action au détriment d'une personne sans son consentement. Amrou lo, les chachamim l'ont répondu, cette action n'est pas considérée comme une action au détriment de l'esclave. Mipne sheu kinyano, parce qu'en fait, la raison pour laquelle il consomme la truma, ce n'est pas un droit, mais parce qu'il appartient à son maître. S'il n'appartient plus à son maître, il n'a plus le droit de consommer la truma. La Gemara expliquera. Yativ ravuna verav Yitzhak bar Yosef kame derav Yirmiya. Yativ rav Yirmiya vekame namnem et rav Yirmiya somnolé. Yativ ravuna vekamar. Et Ravuna était assis et il a dit la chose suivante. Shma mina miderabanan. On peut déduire des paroles des Chachamim qui disent qu'une fois que le titre d'affranchissement a été transmis à un émissaire, le maître ne peut plus se rétracter. Alors que dès que le maître se rétracte, finalement cet émissaire ne peut plus être considéré comme l'émissaire de ce maître. On pourra déduire de là. Hatofes le Baalchov Kana. Celui qui saisit des biens pour le bénéfice d'un créancier, même si cette personne n'est pas elle-même créancière, cette saisie sera considérée comme légitime et le créancier a acquis ses biens en tant que remboursement de sa dette. Et cela même s'il n'a pas été nommé émissaire. Amar lo, Rabbi Yitzhak bar Yosef, Rabbi Yitzhak bar Yosef a dit à Ravuna, afilu b'makom shechav l'acherim, même si cette saisie porte préjudice à d'autres personnes, si par exemple il y a d'autres créanciers qui voulaient aussi saisir les biens de ce créditeur, Amarle in Ravuna lui a répondu, oui effectivement, de la Mishnah, on peut aussi déduire cela, parce que finalement, dans notre Mishnah, nous voyons que l'émissaire a, si l'on peut dire, saisi ce titre d'affranchissement pour le compte de l'esclave, même si cette saisie porte préjudice à son maître. Adehachi it arbehu rabirmiya. Entre temps, Rabbi Yirmiya s'est réveillé à Marlehu. Il leur a dit, Dardeke, jeunes élèves, Hachi amar Rabbi Yochanan, c'est ainsi que Rabbi Yochanan a dit, Hatofes le Baalchov, bemakom shechav l'acherim, lokana. Celui qui saisit des biens pour le compte d'un créancier, alors que cette saisie porte préjudice à d'autres personnes, par exemple, il y a d'autres créanciers qui veulent aussi saisir ses biens, lokana, cette saisie n'est pas légitime, et donc le créancier n'a pas acquis ses biens en tant que remboursement de sa dette. Vim tomar mishnatenu. Et si tu me poses une question de notre Mishnah où l'on voit qu'une personne peut saisir un objet pour le compte de quelqu'un d'autre, même si cela peut porter préjudice à son maître, c'est différent. Nous n'avons pas de preuve de notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, kol haomer tenu, tout celui qui dit donne quelque chose à quelqu'un, que omer zechudami, c'est comme s'il lui disait acquis pour lui. En d'autres termes, une fois que ce titre d'affranchissement a été transmis à l'émissaire, l'émissaire l'a déjà acquis pour l'autre. Et cela, avec le consentement du maître. Une fois que le maître se rétracte, c'est déjà trop tard. Amar Rav Frisda dit, Hatofes le Baalchov makom shechav l'acherim, celui qui saisit des biens pour le compte d'un créancier, alors que cette saisie porte préjudice à d'autres personnes, banu le machloked Rabbi Eliezer v'Rabbanan. Nous arrivons à une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim d'Etnam, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah, dans Péa, Perek Dalet. Il s'agit de la mitzvah qu'on a de laisser un coin du champ à la fin de la moisson. Les Chachamim ont institué de laisser 1/60 de la récolte pour le bénéfice des pauvres. Alors la Mishnah nous dit, Mi sheliket et hapea, celui qui aurait récolté la pea, le coin du champ qui était laissé pour les pauvres, il s'agit d'un riche. Ve amar harezu le ploniani, il dit voilà, cette récolte sera pour un tel le pauvre. Ici aussi, puisque cette personne n'a pas récolté cette pea pour lui-même, mais pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, il s'agit ici donc d'une saisie pour une personne qui porte préjudice à d'autres personnes. Rabbi Eliezer Omer Zachalo, cette saisie sera légitime et le pauvre a acquis cette pea. Les Chachamim disent, il ne donnera pas à ce pauvre, mais il le donnera au premier pauvre qu'il rencontre. En d'autres termes, cette saisie n'est pas légitime. Nous voyons donc ici une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, si une saisie pour le compte d'un créancier, alors que cette saisie porte préjudice à d'autres personnes, est-ce que cette saisie est légitime ou non? La Gemara répond, Amar amemar vitemar av papa.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.